Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous de l'environnement avec au programme aujourd'hui un film optimiste et une histoire de transition réussie. Et puis dans la seconde partie de l'émission, un anniversaire moins joyeux, celui du naufrage du Baleine au large de l'île de Sein, c'était il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'on attend ? Tel est le titre du dernier film de la journaliste, réalisatrice et écrivaine Marie-Monique Robin. Énième film de sa production qui n'a eu de cesse de nous interpeller en plus de 30 ans de carrière. Mais premier film réalisé pour le cinéma, présenté en ce moment en avant-première dans différentes communes de France, comme au Festival du Livre de Moinsartou dans les Alpes-Maritimes dimanche dernier, avec un très bel accueil du public. Un film qui sortira en salle le 23 novembre prochain. Qu'est-ce qu'on attend ? L'histoire d'Ungersheim, petite ville de l'est de la France qui s'est lancée dans une transition complète vers l'après-pétrole et a réussi son pari. Avec nous pour en parler et s'intéresser à cette notion de transition, Marie-Monique Robin, Christophe Bonneuil, historien-chercheur au CNRS, directeur de la collection Anthropocène au Seuil, et également Mathieu Labonne, spécialiste du climat et des questions liées au carbone, directeur de l'association Colibri. Et puis en seconde partie d'émission dans les Échos de la Terre, nous retrouverons Yann Rabuteau, juriste spécialiste des activités marines et de la protection de l'environnement marin. Il est fondateur du réseau Allégan et il nous parlera du 40e anniversaire du naufrage du pétrolier est-allemand, le Baleine, au large de l'île de Sein. Et surtout, il questionnera et nous questionnerons avec lui la notion de responsabilité en matière de marée noire. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'on attend ? Et si la transition écologique et énergétique était possible ?
Nous sommes sur une planète limitée. Au lieu de percevoir cette planète comme une magnifique oasis perdue dans un grand désert sidéral et astral, nous la percevons comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la croissance. C'est-à-dire que la croissance... L'avidité, en quelque sorte, et l'insatiabilité prônée comme un système humain. C'est-à-dire qu'on manipule l'être humain à n'être jamais satisfait. Et comme l'être humain n'est jamais satisfait, eh bien, on rentre dans le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais ce toujours plus qui ne génère même pas de la joie. Et de l'autre côté, vous avez des êtres humains qui n'ont rien à donner à leurs enfants. Donc le problème aujourd'hui de l'humanité, c'est vraiment de transcender tous ces systèmes idiots dans lesquels les piéger pour penser humain et non pas penser territoire, penser armement, penser... On a une planète merveilleuse, on la détruit. On ne sait rien faire d'autre que nous entrégorger. On consomme beaucoup de moyens et beaucoup d'argent à la destruction alors qu'en fait, on aurait tous les moyens aujourd'hui par le génie que nous avons aujourd'hui. Je ne récuse pas la technologie dans ce qu'elle a de positif, je la récuse dans ce qu'elle a de négatif. Fabriquer des missiles, des bombes atomiques, enfin c'est complètement stupide si vous voulez. Donc il faut rentrer dans l'ère, prendre conscience de notre inconscience et enfin être intelligent.
Bonjour Marie-Monique Robin.
Bonjour.
Bonjour Christophe Bonneuil.
Bonjour.
Bonjour Mathieu Labonne.
Bonjour.
Alors les paroles que nous venons d'entendre sont celles de Pierre Rabhi dans une interview sur France Inter, c'était le 13 mars 2014. Prendre conscience de notre inconscience et enfin devenir intelligent, ces paroles il faut sans cesse peut-être les rappeler, mais elles vont tellement bien avec le sujet d'aujourd'hui. Alors trois parcours avec vous trois profils différents, mais peut-être une même conscience écologique en chacun de vous, Marie-Monique Robin.
Je pense que nous avons pris conscience, en tout cas, de l'inconscience de cette machine absolument folle qui nous conduit à l'effondrement. Cette prise de conscience, elle date d'il y a 4-5 ans, vraiment. C'est-à-dire que de me dire, c'est inouï ce qui se passe et c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Il va falloir faire tout ce qu'on peut faire pour stopper cette machine. Et comme le dit Pierre dans l'interview qui vient de passer, c'est là aussi que j'ai pris conscience que le système économique fondé sur la croissance inhibitée était un non-sens absolu et qu'il fallait aussi en changer. Changer de paradigme, voilà.
Oui, Mathieu Labonne, une prise de conscience qui remonte à quand ?
Alors pour ma part, je pense que c'était à la fin de l'adolescence surtout. Alors c'est passé d'abord par des questions liées très clairement à la nature, au sens large, par rapport aux arbres notamment. C'était avant tout une connexion à la nature, beaucoup plus qu'une prise de conscience des enjeux écologiques. Et après, quand j'étais étudiant, c'est la question justement du changement climatique qui m'a bouleversé et qui même a orienté complètement mon engagement personnel. J'ai fait des études d'ingénieur dans le spatial, donc rien à voir. Et ça m'a donné envie de mettre mon énergie au service d'autre chose. Et ensuite, après, il y a un cheminement où on relie ces questions d'écologie, puis des questions plus personnelles aussi de changement humain. Et c'est aussi ce qui me plaît dans la démarche aujourd'hui qu'on voit dans l'écologie, c'est à quel point elle s'interroge même sur des questions très profondes par rapport à l'être humain. Et c'est vraiment, moi, la rencontre de ces deux dimensions de ma vie qui a été l'accélérateur.
Déterminante. En fait. Ouais. Christophe Bonneuil, alors vous, c'est plus sous l'angle de l'histoire, finalement, l'histoire de l'environnement et puis l'histoire de l'anthropocène, hein, puisque on vous doit ce livre avec Jean-Baptiste Fressoz, L'événement anthropocène, La Terre, l'Histoire et nous, et notamment la collection au seuil, justement, intitulée Anthropocène. Cette prise de conscience, est-ce qu'il y a prise de conscience ou finalement c'est à travers ce travail de chercheur, d'historien que vous nous interpellez en nous donnant toutes ces clés de compréhension?
Oh, certainement, si je me suis intéressé à ces sujets, on pourrait dire que ça remonte au temps où j'étais enfant. J'habitais au 16e étage d'une tour et c'était le plaisir des vacances dans une petite ferme de chez mes grands-parents. Après, plus tard, sont venues des lectures, René Dumont, André Gortz et d'autres, mais bien plus tard. Oui. Et effectivement, ensuite, c'est un travail de chercheurs, d'historiens, où on s'est retrouvé dans notre travail à réaliser à quel point on vit sur une planète qui marche sur la tête, qui va dans le mur, où on a une crise de la biodiversité qui est inégalée depuis 65 millions d'années, où on a des émissions de gaz à effet de serre qui provoquent un dérèglement climatique, émissions qui sont inégalées depuis des millions d'années également et qui mettent sur les routes des millions de réfugiés climatiques. On vit dans un monde où la moitié des habitants de la planète la plus pauvre a moins de richesses que les 65 plus riches milliardaires et où on voit ces inégalités qui s'accroissent depuis 30 ans de mondialisation. Et le dernier livre de Thomas Piketty montre cet accroissement des inégalités. Je pense qu'il faut penser la question sociale et la question environnementale ensemble, et on voit bien que les solutions sont portées ensemble à la fois par l'économie solidaire oui. Et les alternatives écologiques. Et dans ce film de Marie-Monique, on voit bien que les deux marchent vraiment main dans la main.
Et le lapsus solitaire n'était pas complètement lapsus, parce que ça part d'un homme, cette histoire-là. Oui, donc il est seul à la base, il fédère.
Oui, tout à fait. Marie-Monique Robin. Mais c'est vrai que, moi j'ai été très touchée hein, par cette histoire que j'ai filmée pendant un an. Je revenais d'un tour du monde pour Sacrée Croissance, donc qui était un film où j'avais montré les plus belles initiatives.
À travers le monde.
Voilà, à Toronto, au Brésil, au Bhoutan, enfin vraiment les belles monnaies locales partout. Et voilà, je trouve en Alsace un territoire qui fait exactement tout ce que préconisait le film, en fait.
Oui. De A et à Z, d'expérience unique.
Hein, ah oui, unique, parce que moi j'avais interviewé Rob Hopkins, qui est le fondateur du mouvement des villes en transition pour Sacrée Croissance, en 2013, on en reparlait encore récemment, et il passait dans le film en 2014, et voilà, et quand il est venu à Ungersheim, il m'a dit, j'ai jamais vu ça nulle part, quoi. Et d'ailleurs, il me dit, je suis obligé aussi de repenser ma théorie, entre guillemets, parce que Rob est quelqu'un de très pragmatique dans l'approche de la transition, mais il disait, j'ai toujours dit que ça partirait uniquement ou quasiment des citoyens. Mais il dit, j'ai compris avec Ungersheim qu'on gagne beaucoup de temps quand les élus locaux sont embarqués, plus que ça, embarquent en fait hein, les autres. Alors effectivement, solitaire, c'est vrai, vous avez raison, parce que Jean-Claude Mensch, qui est le maire de cette commune, a dû faire preuve de beaucoup de ténacité, de patience, et ça c'est une qualité absolument extraordinaire chez lui, pour assembler autour de lui, rassembler et donner envie de mener à bien des projets collectifs d'intérêt commun. Et en ne perdant pas de vue les enjeux qu'on vient de... Parce qu'il les met sur la table.
De mentionner.
Tout de suite, il parle de réchauffement climatique. Enfin, il dit, c'est, voilà, d'épuisement des ressources naturelles, etc. Mais dit, voilà, maintenant, ensemble, on peut faire notre part, hein, comme le disent les colibris. Et voilà, ça, c'est absolument extraordinaire. C'est ce que j'appelais dans Sacrée Croissance un héros local. Les héros locaux sont des gens qui ont une vision, qui sont capables de rassembler autour d'eux, d'avaler leur ego, ce qui n'est pas toujours évident, et de mener à bien ces projets d'intérêt commun. Et Jean Coulmenge est un héros local.
Alors on part direction Ungersheim, à travers votre film, qu'est-ce qu'on attend ?
Donc on est 2200 habitants à Ungersheim, et on est 2200 personnes à avoir des idées, à avoir des compétences. Et quand on met tous ces éléments ensemble, ça fait une richesse importante. Et du coup, on est capable, nous, tous ensemble, de faire quelque chose. Et à partir du moment où on remet l'être humain au centre de l'intérêt, eh ben, on retrouve les valeurs qu'on a perdues dans le système dans lequel on vit actuellement, qui, lui, tourne à l'envers complètement.
Christophe Bonneuil, pour réagir peut-être aux propos précédents de Marie-Monique Robin, donc Rob Hopkins, hein, qui a cette phrase d'ailleurs dans le film, hein, c'est un lanceur d'avenir, comme aime le définir Marie-Monique Robin. Il dit « L'avenir a besoin de citoyens autonomes et actifs ». Et c'est vrai que on le retrouve dans le livre « Il change le monde », paru au Seuil. Il y a cette conscience du rôle de la base, des citoyens. Donc là, on l'entendait, 2200 habitants et autant d'idées. 50 très très impliqués, très actifs, mais qui fédère toutes les énergies autour d'eux. Il y a ce rôle aussi nécessaire des politiques.
Oui, alors c'est intéressant parce que Rob Hopkins avait d'abord fait le manuel de la transition et donc Il change le monde, c'est son deuxième livre où il fait un peu un tour du monde des groupes de villes en transition et de leurs premières réalisations. Et on peut avoir l'impression en lisant le livre, ce qui donne beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps on se dit bon, tout ça c'est un peu microscopique, c'est pas ça qui va changer le monde, etc. Si on prend les chiffres qu'on entend dans le film de Marie-Monique, dans Ungersheim, il a été créé 100 emplois depuis 2005 dans cette transition écologique et sociale. Pour 2200 habitants, si on rapporte ça à la France, ça fait 2,7 millions de création d'emplois. C'est le plus beau programme présidentiel et ça vient de la base et des territoires. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire.
Ça vient du microscopique et ça peut devenir macroscopique, hein, Mathieu Labonne.
Oui, alors ce qui est effectivement quelque chose qui est important, c'est que ces grands enjeux un peu mondiaux, aujourd'hui, de plus en plus de gens ont pris conscience que les solutions se trouvaient à l'inverse, dans la question du mode de vie, dans des questions très personnelles, des questions aussi de petits collectifs, des questions de communauté. Et ce changement qui est en train de s'empérer, et on voit le succès du film demain ou d'autres films, qui montrent l'importance des actions citoyennes, doit se compléter aujourd'hui d'une transformation de l'approche politique qui n'a plus pour but de résoudre les problèmes et de laisser finalement les citoyens le faire. Donc il y a un enjeu aujourd'hui de comment ces actions citoyennes arrivent à les démultiplier. Et pour ça, il y a des leviers qui sont... Donc ce lien entre le politique et le citoyen, c'est une question d'actualité en plus en ce moment avec les échéances qui arrivent. Et c'est une question qui a revisité dans les années qui viennent.
Alors il y a un maître mot hein, dans ce film et puis d'une manière générale dans vos propos aux uns aux autres, c'est le mot transition. Est-ce qu'on le définit spécifiquement ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce qu'on l'utilise, mais il n'a pas forcément une définition précise hein, dans la tête des auditeurs ou des citoyens de manière générale. Marie-Monique Robin.
La transition telle qu'elle est définie par Jean Coulmenge chez son conseil municipal et les citoyens à Ungersheim, mais aussi telle que je l'ai vue dans d'autres contextes quand je faisais Sacrée Croissance, c'est donc, par définition, on passe d'un état à un autre. L'état dont on part, c'est un état où nous dépendons énormément des énergies fossiles, nous produisons énormément de gaz à effet de serre, où nous contribuons aussi à l'extinction de la biodiversité. Donc ça, c'est l'état dans lequel nous sommes. C'est un mode de production et de consommation fondée sur la croissance illimitée et qui fait beaucoup de dégâts, y compris dans du chômage, produits, etc. Donc ça, c'est le constat. On part de là. Et la question, c'est où veut-on aller ? Là, on veut aller vers une société qui soit véritablement durable, qui permette, au sens de la Convention de Rio de Janeiro sur la biodiversité, aussi aux générations futures de vivre, tout simplement de vivre, dans des conditions dignes. Et pour ça, donc, il faut préserver, prendre soin des ressources pour qu'elles puissent toujours être là, tout simplement, parce que là, aujourd'hui, c'est la question, est-ce qu'elles seront là dans 20, 30 ou 50 ans, hein, c'est-à-dire c'est très rapide.
Hein. Avec une population qui est mondiale qui ne cesse d'augmenter.
Oui, et puis toutes les destructions qui sont en cours hein, et qui sont absolument massives. Et donc, on passe d'un point à un autre. Et la question, c'est comment allons-nous faire cette transition qui est absolument indispensable ? Soit nous la subissons. Par exemple, les destructions liées au réchauffement climatique vont être tellement importantes qu'on va être obligé de dépenser beaucoup d'argent pour réparer, pour ce qui déjà est en train de se profiler, hein, avec les inondations de plus en plus importantes, ou des sécheresses qui font que, vous avez vu, la production des céréales a subi beaucoup de problèmes. Hein. Et ça va continuer. Donc, soit on le subit, parce qu'on n'a pas su anticiper, et là, ça va être très violent. Soit on la prépare, cette transition, ensemble. Et on fait une feuille de route. Et ce que j'ai aimé dans l'expérience de Ungersheim, ces 21 actions pour le 21e siècle, c'est qu'il y a vraiment cette feuille de route. On va ensemble déterminer quelles sont les actions que nous pouvons faire localement pour relocaliser la production alimentaire. Très important. Et c'est pour ça, les emplois qui sont créés sont des emplois pérennes qu'on ne peut pas délocaliser parce que vous, comme moi, vous êtes des mangeurs. Je préfère parler de mangeurs que de consommateurs. Nous mangeons tous les jours. Et si les aliments que nous produisons le sont localement, évidemment que ces emplois sont... On ne les délocalisera jamais parce qu'on aura toujours besoin de paysans, de maraîchers, etc. Ce n'est pas rien. Hein. Je rappelle souvent un chiffre que j'avais rapporté quand je faisais Sacré Croissance et qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'un aliment acheté dans un supermarché parcourt en moyenne en Europe 3000 km, 4000 en Amérique du Nord. C'est énorme en ce que ça veut dire en termes de réchauffement climatique. Voyez. Donc voilà, comment peut-on relocaliser la production et la consommation des aliments, qui sont en plus des aliments de qualité, évidemment, sans pesticides. Comment est-ce qu'on peut développer la sobriété énergétique et promouvoir les énergies renouvelables? Comment est-ce qu'on peut redynamiser l'économie réelle, locale, liée aux besoins réels? C'est la vertu du RADI, la monnaie locale de Ungersheim, mais il y a plein d'autres monnaies complémentaires qui sont actuellement
en circulation dans le monde.
Voilà. Et puis tout ça dans un contexte où, comme le dit très bien Mensch, la première chose, c'est réfléchir ensemble et avec une autonomie intellectuelle que nous avons souvent perdue. Parce que quand on écoute le discours... politique, y compris. Nous sommes très imprégnés par, vous savez, cette fameuse phrase de Margaret Thatcher, première ministre britannique à l'époque, qui avait dit « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Et on nous dit ça sans arrêt, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative. Si, il y a des alternatives. Et comme on le voit dans ce film, elles sont très concrètes, elles permettent de ne pas augmenter les impôts, de créer de l'emploi, d'émettre moins de gaz à effet de serre et de dépenser moins d'argent, parce qu'on fait beaucoup d'économies aussi.
Elles sont effectives, et effectivement, l'expérience montre que visiblement, ça marche. Avant d'aller plus loin dans toutes ces étapes, puisque vous citiez la première, et c'est vrai qu'on sent, même à travers le monde, que c'est par là que ça passe, c'est d'abord l'agriculture. On va retourner dans votre film, Marie-Monique Robin, ce film intitulé « Qu'est-ce qu'on attend ?» et retrouver Christophe Moïsès.
L'Alsace est une terre de culture très intensive qui se prête bien à la monoculture de maïs. C'est une culture qui a été et qui est toujours encore relativement rentable. Ben pour moi, c'était... Il y a un moment où c'était arrêté ou changé parce que je ne supportais plus de rester dans ce système qui dominait et contraignait absolument toutes nos façons de faire. Je ne supportais plus de travailler pour enrichir des entreprises chimiques. Je ne voulais plus non plus travailler pour nourrir des animaux, je voulais nourrir des humains. Ça a été très difficile pour mon père de voir tout ce qu'il avait fait être remis en cause, de voir les années d'efforts et d'investissements entièrement bouleversés, modifiés. Et pas seulement pour mon père, mais pour tout mon entourage, ça a été même vécu dans un premier temps comme une sorte de trahison. Maintenant, 5 à 10 ans plus tard, on se rend compte que ce que je fais n'est ni dangereux ni mauvais, et la plupart ont changé, mon père y compris.
Mathieu Labonne, peut-être une réaction. Donc, remettre le paysan au centre du processus de décision et de production, finalement, on en arrive là pour qu'il retrouve au moins une totale maîtrise de ce qui fait son métier et probablement aussi son ADN, là où il en est, a-t-on le sentiment, en tout cas avec la production intensive, dépossédé.
Oui, c'est un peu une question assez bien, la question de trouver une forme d'autonomie, de retrouver son pouvoir d'agir, et c'est ce que fait ce paysan. Dans son témoignage, ce qui est intéressant aussi, c'est ce changement de culture, et tout cet enjeu aussi dans cette transition d'arriver à être assez inclusif et rassembleur, que ce soit quelque chose qui rassemble ou quelque chose qui clive. C'est là l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est pas un enjeu technologique, l'enjeu, c'est un changement culturel. Comment est-ce qu'on le construit? Comment est-ce qu'on crée ce nouvel imaginaire aussi? Il faut accompagner des personnes qui sont dans un imaginaire des années 70, 80, 90, qui n'était pas celui qu'on a besoin de trouver aujourd'hui. Les choses ont changé, et voilà. Et donc, à nous, et l'art le permet beaucoup, des films le permettent, d'inventer de cet imaginaire. Pour retrouver du cœur à l'ouvrage, pour que ça ait du sens de faire cette transition pour les gens.
Christophe Bonneuil, ce qui est intéressant dans vos recherches, vos travaux d'historien, c'est que vous avez travaillé sur la production agricole en France, le passage à l'intensif et la sélection des semences, etc. Et finalement, vous avez cette vision des paysans qui sont petit à petit, comme on dit, dans un carcan. Est-ce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, pour les paysans, dans l'ultra-production, elle est quand même un carcan vent extrêmement lourd qui sera peut-être difficile à faire bouger.
Alors moi, ce que je trouve intéressant dans le témoignage du paysan boulanger dans le film et de sa femme, c'est qu'ils se mettent à recultiver des variétés anciennes, mmh. qui sont considérées comme dépassées, improductives, mmh. qui n'ont pas des bons rendements, qui ont été interdites mmh. du catalogue des variétés autorisées en France. On voit un cheval, c'est le retour du cheval pour les labours, pour transporter les enfants à l'école à la place de la voiture. Donc c'est des images archaïques. Et du coup, ça pose la question de, finalement, qu'est-ce que c'est que le progrès? À quoi on a cru pendant 2 siècles? Et comment il faut peut-être sortir de nos anciennes conceptions du progrès? Par exemple, le progrès en agriculture, on a toujours mesuré en termes de productivité à l'hectare ou de productivité du travailleur. En même temps, en faisant ça, on importait des engrais, des tracteurs et des énergies fossiles qui étaient extraits ailleurs et qui consommaient des hectares ailleurs dans le monde. Et on n'a pas mesuré ces hectares-là dans le calcul de la productivité à l'hectare. Le rendement énergétique de l'agriculture en France sur les 2 derniers siècles a été divisé par 12, en fait. Donc on a perdu de l'efficacité énergétique en 2 siècles. On est passé d'un apport de 1 calorie de travail, essentiellement musculaire à l'époque, pour avoir 12 calories alimentaires. Aujourd'hui, dans des agricultures industrielles en France, au Danemark ou aux États-Unis, on est à un apport de calories essentiellement fossiles pour obtenir 0,7 calories alimentaires. Donc on a une agriculture qui est déficitaire énergétiquement. Est-ce qu'on peut appeler ça un progrès? Est-ce qu'il ne faut pas complètement repenser, y compris ce qu'on appelle le progrès?
En tout cas, ce qui est intéressant dans le film de Marie-Monique Robin, c'est aussi de nous interpeller non seulement sur ces questions d'agriculture, une autre agriculture, mais les semences dont vous parliez, Christophe Bonneuil, ces semences, elles remontent à la, je crois bien, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle.
Certaines dates du Moyen-Âge.
Sauvées par le réseau Semences Paysannes, c'est ça?
Oui, et l'INRA. Moi, j'ai déjà fait un film sur le blé, c'est en 2005, sur les premières plateformes comme ça qui recultivaient des variétés anciennes. Donc, souvent, ils récupèrent 5 grammes, 10 grammes auprès de l'INRA, qui a une banque de ressources génétiques.
Et là, c'est 20 grammes pour Christophe Moïse.
Voilà. Mais ce qui est assez extraordinaire, moi, il m'a aussi beaucoup touché le témoignage de Christophe, parce que c'est une question que je me pose beaucoup avec tous mes films, et étant moi-même fille de paysan, comment arriver à convaincre les agriculteurs qui souffrent beaucoup dans le modèle actuel. D'ailleurs, ils se suicident énormément. Il y a une statistique qui vient de sortir. C'est absolument terrible ce qui se passe dans les campagnes en ce moment. Ils souffrent aussi beaucoup parce qu'ils sont malades. C'était l'un de mes thèmes aussi, d'un moment dans un film, Notre poison quotidien. Ces paysans, maintenant, ça y est, ils sortent du silence, mais voilà. Et ils sont malades. Donc, comment arriver sans les affronter frontalement? Parce que je sais à quel point c'est difficile de changer de système. Il le dit très bien, Christophe, avec beaucoup de pudeur, mais il le dit très bien. Arriver à les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent aller mieux. Alors, on voit comment, quand vous avez une commune qui, il le dit Christophe d'ailleurs, qui fait de son mot d'ordre la transition comme un projet collectif vers un mieux-être pour tout le monde, eh bien on a le courage aussi d'entamer cette transition, y compris sur sa ferme, d'essayer de convaincre son père qui vit ça comme une trahison. Enfin, vous voyez, c'est pas facile.
Et de montrer l'exemple.
Bien comprendre, c'est pas facile de montrer. Et donc, il y a toute une énergie qui se met en place, et c'est un cercle vertueux où la transition appelle la transition et on soutient. Et ça, c'est assez beau de voir ça dans cette commune. Et c'est la première fois où j'ai touché cette dynamique vertueuse du doigt, beaucoup plus que quand j'étais à Toronto, à Rosario, avec les monnaies locales partout au Brésil, etc. Bien sûr que je l'ai vu, comment une monnaie locale transforme un bidonville à Fortaleza, c'est magnifique, le Palmas, c'est magnifique. Mais là, comme ça se passe sur un territoire où je suis revenue pendant plus d'un an, du coup, j'ai aussi développé des relations privilégiées avec les gens, et j'ai senti là vraiment cette dynamique. Et là, c'est ça qui fait vraiment du bien, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend vraiment? Parce que c'est tellement formidable de voir comment, quand vous avez un collectif, rien n'est parfait sur cette commune, c'est pas le paradis non plus, mais enfin voilà, comment on voit, comment quand on prend des bonnes mesures, on accompagne, eh bien vous libérez le meilleur des gens, eh bien ça c'est vraiment, c'est pour ça que vous avez vu dans la salle à Mont-en-Sartou, il y a des gens qui pleuraient, qui sont levés et qui pleuraient, parce que en plus ceux qui parlent, Bertrand tout à l'heure qu'on a entendu, c'est un citoyen lambda, c'est pas du, voilà, ça peut être n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, et là du coup on se sent vraiment proche de ces gens et ça touche.
Porté. Ouais. Et donc cette dynamique vertueuse, on la retrouve aussi sur notre question, ça va jusqu'à la question, Marie-Monique Robin, de santé publique. On retourne dans votre film, qu'est-ce qu'on attend sur justement la fabrication du pain à partir de ces semences ancestrales?
J'ai beaucoup de personnes qui sont intolérantes au gluten et qui venaient d'abord juste prendre du pain pur sarrasin parce que voilà, ils étaient intolérants au gluten, mais qui prenaient toujours du pain pour le frère ou le mari ou le père. Et qui, au fur et à mesure, ben, je voyais qu'ils prenaient plus de pain au sarrasin et qu'ils me disaient, ben, votre pain, je le digère très bien, il ne me pose aucun souci, quoi. Donc, et ce n'est pas anecdotique, c'est très récurrent. C'est des variétés qui datent d'avant 1900, donc avant que l'industrie agroalimentaire s'en empare et pousse les blés pour permettre la mécanisation des pâtes. Et ben, ça en fait que les blés ont des gluten qui ont des molécules très grosses pour accepter justement la mécanisation. Et ça en fait des blés qui sont vraiment très indigestes.
Christophe Bonneuil, une réaction peut-être par rapport à tous les propos déjà tenus par Marie-Monique Robin. Et puis là, cet extrait, c'est vrai que je parlais de cette question de santé publique aussi.
Oui, alors c'est en trois phrases toute l'histoire de la sélection du blé. Hein, depuis la fin du 19e siècle, on a sélectionné le blé pour qu'il ait la paille la plus courte possible, pour que l'essentiel de la biomasse soit dans le grain, donc des blés nains, et pour qu'il ait une force boulangère la plus forte possible. Donc c'est, on a sur-sélectionné certains gluten, très gros, beaucoup plus difficiles à digérer, et ça s'est accompagné de la multiplication d'intolérances et d'allergies, qui fait qu'on mange beaucoup moins de pain qu'auparavant, qu'il y a une sorte de désaffection du pain qui était pourtant un aliment de base chez nous. Alors, elle parle de variétés d'avant 1900. Le groupe d'agriculteurs autour du réseau Semences Paysannes ont effectivement ressorti des frigidaires, des variétés anciennes, mais ils sont plus que des collectionneurs de vieilles variétés, c'est des inventeurs. Ils les croisent, ils les mélangent, ils les font évoluer parce que le climat d'il y a un siècle, c'est pas le climat d'aujourd'hui. Il s'agit pas de nous faire croire que avant c'était mieux. Il faut continuer à travailler, à inventer, mais reprendre le travail de sélection avec d'autres critères que les critères de la mécanisation ou du pur rendement pour s'intéresser aux qualités gustatives, à des propriétés agronomiques d'une levée rapide qui concurrence les mauvaises herbes. Du coup, on a moins besoin d'herbicides, de privilégier d'autres critères de sélection. Et ce qu'ils font, c'est pas simplement revenir à l'avant, c'est réinventer une agriculture pour demain.
Et le travail de la terre a réinventé aussi, tout de suite, on va en prendre la mesure avec le vétérinaire du village, Marie-Monique Robin, et la question du cheval.
La réintroduction du cheval, d'un cheval de trait dans un village, c'est un symbole. C'est un très beau symbole. En fait, on vit dans un monde où on a modifié le temps, et de manière complètement virtuelle, artificielle, et le cheval nous rappelle à la lenteur, nous rappelle à un rythme normal, physiologique pour notre organisme. Donc, au-delà de ce que ça peut représenter médiatiquement ou le plaisir social d'être confronté à l'animal pour les enfants, etc., je pense que la présence du cheval va bien au-delà de ça et c'est une modification tangible du rapport au temps.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Plus vétérinaire.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, oui, bon, c'est
on
même
dit toujours le vétérinaire, mais donc il l'a été et puis finalement il remplit une autre fonction maintenant dans le village.
Voilà, il a décidé d'arrêter son métier de vétérinaire. D'abord parce qu'il avait marre de faire des vaccins aux animaux pour rien. Il trouvait que c'était une médecine business, ça lui plaisait plus. C'est intéressant parce qu'il fait partie de cette génération que j'appelais dans Sacré Croissance les career shifters. Vous savez, ceux qui ont un bac plus 5, plus 10 et qui laissent tout tomber, grand mouvement, et y compris chez nous évidemment, pour faire des métiers pour le bien commun. Faire de l'agriculture d'ailleurs en particulier beaucoup. Hein. Et donc.
Et vivre même une autre vie.
Jean-Sébastien, il gagne moins d'argent qu'avant, comme il dit lui-même, mais l'argent ça se mange pas, c'est ce que me disaient déjà les. Voilà. Et il s'occupe de la régie agricole. Il fait de l'agriculture biologique, permaculture, où il produit des aliments avec les habitants du village pour l'autonomie alimentaire de la commune. Voilà.
Mathieu Labonne, on est en plein dans cette décroissance, sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Oui. Et inventer une toute autre économie, finalement.
Oui, oui. Ben, je pense que aujourd'hui, le facteur le plus important de changement, c'est que les gens veulent se réapproprier leur quête de joie, leur quête de bonheur. Et donc, ils se posent des questions sur leur mode de vie, et ça induit des comportements différents. Donc, à la base, aujourd'hui, de la transformation de la société, je trouve quelque chose de central, c'est justement cette envie de ne pas juste répondre aux injonctions du système, de comment est-ce qu'on va être heureux, satisfaire nos besoins, nos plaisirs, etc. Mais d'essayer d'être une sorte de chercheur, de vivre l'expérience et d'en tirer des conséquences. C'est toutes ces personnes-là, c'est souvent, dans la notion de transition, c'est souvent des petits pas. C'est des expériences qui sont faites, un peu irréversibles, où on se rend compte que bah, finalement, vivre de telle ou telle façon, ça nous rend plus heureux, ça nous épanouit, ça nous met de meilleure humeur ou plus en forme. Donc c'est vraiment le fait d'aller à la rencontre de cet autre mode de vie et de façon très rationnelle de répondre à cette question. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Si on arrive à faire passer l'écologie comme un chemin vers une vie plus joyeuse et plus heureuse, bah, le chemin sera... qu'elle sera entamée et sera irréversible.
Et en sachant, Marie-Monique Robin, on découvre beaucoup de choses dans le film, hein, parce que là, on a parlé de l'agriculture, mais il y a la cantine bio, il y a le jardin du trèfle rouge, il y a les panneaux photovoltaïques, l'éolienne mise en place, un hameau, enfin, les maisons éco-durables qui sont construites, qui attirent, du coup, des habitants de la région qui veulent vivre à Ungersheim. Je suis pas sûre que le village reste longtemps à 2200 habitants, etc., etc. Finalement, oui, tout un circuit.
Oui, oui, tout à fait. Mais là-dessus aussi, vous voyez, un exemple, la cantine, vous venez d'en parler, elle fait plus de 500 repas par jour, c'est quand même énorme. Hein. Elle alimente 5 cantines, dont celle d'Ungersheim. Et moi, j'ai assisté à un coup de téléphone d'un maire, parce qu'en fait, la mairie a décidé, nous livrerons les repas bio pas plus de 20 minutes en voiture. Voilà. Et alors, le maire n'était pas dans ces 20 minutes en voiture, le maire qui appelait, et tu pourrais pas me livrer les repas. Non, il a dit, non, maintenant, tu fais pareil. Tu fais pareil. La commune, de toute façon, elle ne va pas s'agrandir. Donc, oui. Et c'est pareil, il va dire aux gens, ils sont en train de construire un deuxième éco-hameau. D'accord. Oui. Mais à un moment, l'idée, c'est pas, vous voyez, la croissance, c'est pas ça.
Que les exemples se multiplient.
Voilà. C'est ça. Voilà. Donc,
ils citent toujours. Fonctionnement en archipel, d'arriver à mettre en relation toutes ces initiatives.
Alors, ils sont prêts à recevoir, parce que ça commence déjà, hein, parce qu'il y a déjà eu pas mal d'avant-premières et ça circule sur la toile, etc. Et comme les élus, comme je dis dans le dossier de presse, c'est quand même un bel hommage aux élus locaux inspirés. Et courageux, c'est dur d'avoir les deux, hein, au minimum, inspiré et courageux, mais ils sont prêts à les recevoir pour les aider, parce que ça fait 20 ans qu'ils réfléchissent à ça, le maire, et puis ça fait une dizaine d'années qu'ils sont les mains dans le charbon, donc voilà, mais l'idée c'est que ça se passe ailleurs, c'est pas qu'on déménage tout ça au Ungersheim.
Allez, suite de notre émission consacrée au film « Qu'est-ce qu'on attend ?» de Marie-Monique Robin, on se retrouve dans un instant.
I hope you learn to make it on your own. And if you love yourself, just know you'll never be alone. I hope that you get everything you want and that you chose. I hope that it's the realest thing that you ever know. Hope you get the pretty girls that's pretty at everything. $1 million cribs, having $1 million dreams. And when you get it all, just remember one thing. Remember one thing, that one man could change the world. One man could change the world. All I wanted was $100 million and a bad chick. Imagine this, a muscle nice, it felt like that I had it. Back on the mattress, staring at the ceiling, trying to connect the dots, but it's all making those attachments. I'm talking dreaming so hard, so nice it felt like draft day. You know, My stepbrother used to flip them bags outside the crib like it was trash day. No Kim K, but he bagged, yeah, yeah. But when you're getting fast money, slow down, don't crash. With all the drive in the world, swear you still need gas. Look, think about it. Close your eyes, dream about it. Tell your team about it. Go make $1 million schemes about it.
One man could change the world. One man could change the world.
One Man Can Change the World, chanté par Big Sean, Kanye West et John Legend. Et ça va tellement bien avec le film Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin et cette question de la transition réussie. Vous êtes sur France Culture et c'est la suite de l'émission De Cause à Effet qu'on s'est consacrée au concept de transition, au modèle donc déjà mis en œuvre en partie dans le monde, mais notamment mis en œuvre de façon globale en France, à Ungersheim, dans l'est de la France, et qui fait donc l'objet du dernier film de Marie-Monique Robin, qui est notre invitée, avec à ses côtés Christophe Bonneuil, chercheur au CNRS et directeur de la collection Anthropocène au Seuil, et puis Mathieu Labonne, directeur de l'association Colibri. Alors, la transition, c'est possible.
pense qu'effectivement, on est en transition. Dans la transition, il y a une idée de mouvement, de progression. Donc, on peut dire qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire et de choses à améliorer. Mais en tout cas, on a initié quelque chose au sein de notre famille.
Pour nous, là, la priorité, c'est d'avoir le moins d'impact environnemental possible sur la planète pour que la manière de vivre des Occidentaux, enfin notre manière de vivre, puisse permettre aux autres de vivre aussi, même s'ils habitent au bout du monde.
Je crois que la base de cette démarche, c'est vraiment de se poser des questions d'abord, donc d'essayer de réapprendre à réfléchir par soi-même et à partir de la base, comme disait Alice, on parle des besoins. Donc de quoi a-t-on besoin? Comment peut-on répondre à ce besoin? D'abord être sûr que c'est bien un besoin et pas un désir, et ensuite trouver les réponses les plus éthiques ou les plus acceptables. Et évidemment, on pourra faire mieux et de mieux en mieux, mais la démarche est engagée.
Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait l'impression de se sacrifier. Ça n'impacte pas sur notre bonheur au quotidien.
Au contraire, j'ai l'impression sincèrement que on peut même pas dire se priver, on s'est affranchi de certaines choses et on n'a jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui.
Heureux, c'est ce qui revient.
Pour être.
Marie-Monique Romain qui commence à chanter, pourquoi pas. Changement de vie, bien sûr, on a compris, qui prône la décroissance. Alors, Marie-Monique Romain, on peut donner les chiffres que vous donnez dans le film. Depuis 2005, donc, le village n'a pas augmenté ses impôts, a économisé plus de 120 000 euros et émet 600 tonnes de gaz à effet de serre en moins par an et donc a créé une centaine d'emplois.
Oui, tout à fait. Alors, les freins, d'abord, on me demande souvent est-ce que c'est possible de faire ça ailleurs? Je dis oui, bien sûr. Parce que là, c'est un territoire, mais on peut très bien considérer qu'une ville comme Paris, puisque nous sommes à Paris, décide qu'on découpe en quartiers, en grands quartiers, et on dit, voilà, comment est-ce qu'on peut, nous, développer l'autonomie alimentaire? C'est possible. Des études qui ont été publiées aux États-Unis ou à Toronto, où j'étais pour Sacré Croissance, montrent qu'une agglomération de 6 millions d'habitants comme Toronto pourrait couvrir jusqu'à 60% de ses besoins en denrées périssables, ça veut dire fruits, légumes, petits animaux, les poules, les œufs, etc., en développant un programme d'agriculture urbaine. Toronto est l'une des capitales mondiales de l'agriculture urbaine, en cultivant sur les toits, en retournant des parkings pour faire des jardins, en refaisant une ceinture maraîchère, c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Oui, et c'est vrai que vous parliez des cultures sur les toits, les jardins sur les toits sont déjà d'actualité.
Tout à fait, et même la ville de Paris, en fait, Anne Hidalgo a un projet assez ambitieux dans ce domaine, je dois dire. On pourrait avoir la même chose pour l'énergie, on peut très bien se dire, là où nous sommes à Paris, quelles sont les ressources dont nous disposons. On peut faire, comme on voit dans le film, un cadastre solaire, mesurer chaque toit, le potentiel de chaque toit, encourager les panneaux solaires. On peut aussi avoir des éoliennes, y compris à Paris. On peut très bien transformer une partie des déchets alimentaires en faisant des petites centrales de biogaz qui font petit, on ne parle pas de la folie des grandeurs avec, vous voyez, des... Non, mais donc cette démarche-là est possible partout. Et ce que je vois qui se profile derrière ça, mais j'avais déjà eu ce sentiment quand j'étais à Toronto avec tous ces jeunes bac plus 10 qui se mettaient à faire de l'agriculture bio dans la banlieue. D'ailleurs, depuis, certains que je suis, qui étaient des urbains purs et durs, si j'ose dire, qui n'avaient pas d'attache dans le monde paysan ou agricole ou rural, ont quitté la ville pour s'installer à la campagne. Et je pense qu'on peut amorcer derrière ça ce que j'appelle, moi, l'exode urbain. Nous sommes avec aussi ce gros problème. Un habitant sur deux, d'après les Nations Unies, vit dans les villes aujourd'hui. Mmh. Et si ça continue, on va être 70% dans 20 ans. On va faire comment pour les nourrir, pour les loger? Il faut absolument qu'on stoppe cette hémorragie de la campagne vers la ville, et en encourageant l'exode inverse. Mais attention, pas par la force. Il faut rendre désirable cette vie-là, faite de sobriété, d'échange, de convivialité, comme on voit à Angersheim.
Oui, l'envie doit être un guide.
Voilà, et ce qui est beau dans cette histoire à Angersheim, je leur rends hommage, parce que c'est vraiment, et ça transparaît dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, etc., c'est que c'est désirable, voilà, ça fait envie. Et c'est ça qui est fondamental, voilà. Et si on arrive à ça, eh bien, on va petit à petit, dans la douceur, parce que moi, la transition, encore une fois, j'ai pas envie qu'elle se fasse sous la contrainte et sous la violence. J'ai envie qu'on la porte ensemble et qu'on voit à quel point c'est beaucoup mieux ce vers quoi on tend que ce que nous avons aujourd'hui, qui est fait d'incertitudes, de conflits. On y arrivera en douceur, en ayant envie, tous ensemble. Évidemment, si on a des élus avec nous, alors là, franchement, on gagne beaucoup, beaucoup de temps.
Alors avant de donner la parole à Mathieu Labonne, vous parliez des élus et on va quand même entendre la voix de celui qui porte tout ça, Jean-Claude Mensch, tout de suite extrait de votre film « Qu'est-ce qu'on attend ?»
Ummersheim, c'est une... la vision idéale, c'est une communauté qui se suffit à elle-même, mais qui ne doit pas être fermée sur elle-même. Donc c'est aussi important. Alors il faut tout le temps garder dans cette enceinte, dans cette communauté, les fenêtres ouvertes vers l'extérieur, ouvertes vers l'extérieur pour voir ce qui se passe, mais aussi pour accueillir et partager des idées nouvelles.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais 2 pains aux graines, s'il vous plaît.
Oui.
La transition, c'est vraiment quelque chose d'effectif, c'est quelque chose qui doit se vivre. Ça doit rentrer dans les mœurs, ça doit être quelque chose d'automatique. On doit y penser tous les jours pour pouvoir la mettre en œuvre et pour pouvoir avancer.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Alors, dernière question aussi de cette première partie de l'émission. Est-ce que dans vos vies, justement, aux uns aux autres, cette transition, vous y pensez tous les jours? Et peut-être donnez-nous un exemple de votre part prise dans cette transition, Mathieu Labonne.
Alors moi, déjà,
vous, je ne suis pas très inquiet.
Je vis en milieu rural, donc je gère à la fois un lieu qui est un centre écologique et un centre de ressourcement, et on est en train de créer un éco-village, donc un éco-hameau comme dans le film avec 27 familles, donc c'est un projet assez ambitieux. Et moi, ce qui me ressource beaucoup à titre personnel, c'est que je suis aussi apiculteur. Et d'arriver à essayer d'équilibrer ma vie entre... Voilà, on est aussi amené à avoir peut-être plusieurs métiers un jour, pour avoir cet équilibre dans où notre travail est au service finalement d'une recherche personnelle. Et moi, c'est vrai que de sanctuariser dans mon temps le fait de s'occuper d'abeilles, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, voilà, d'essayer de garder ça.
Christophe Bonneuil, vous pouvez en profiter d'ailleurs pour nous donner votre phrase un peu guide aussi de fin d'émission.
Voilà, comme beaucoup de gens, je suis dans une AMAP, je suis à Enercop, je fais du pain, c'est un moment de travail manuel qui est important.
Tout en étant
parisien. Mais finalement... J'aurais envie de souligner plutôt l'autre dimension. C'est-à-dire, oui, c'est important d'avoir des histoires positives qui donnent envie, c'est important de sentir que c'est possible, c'est important de voir qu'il y a des gens qui deviennent heureux, qui sont dans un moment de transition où ils donnent un sens à leur vie. Et en même temps, la question du collectif, de l'institutionnel et du politique, on peut pas l'oublier. La cantine municipale, pour qu'elle fonctionne, elle est obligée d'enfreindre ou de jouer avec une réglementation sur l'hygiène qui est faite pour les grandes entreprises industrielles. L'agriculture bio et ses agricultures écologiques sont les moins subventionnées de tous les agriculteurs d'Europe. L'avion est un des modes de transport les plus soutenus. Les émissions de l'aviation ne sont pas comptabilisées dans les calculs internationaux, dans les conférences climat, etc. Tout ça, ce sont des décisions qui sont prises à très haut niveau. Dans les lois sur la transition énergétique, on favorise les grands projets à des dizaines d'éoliennes ou des centaines au détriment de petits projets de régie municipale qui auraient 2-3 éoliennes. Voilà, tout ça, c'est, vous parliez de freins, on parlait de carcans, il y a des initiatives qui fleurissent de partout, mais finalement, tout ce qu'on demande aux politiques pour qu'elles puissent vivre, c'est d'un petit peu soulever le couvercle, ce carcan des contraintes politiques, des vieilles habitudes, des vieux conflits d'intérêts avec la grande industrie, pour que ces initiatives puissent vraiment changer nos vies.
Alors, votre phrase, guide.
Alors, la phrase, c'était une phrase de René Char, qui était résistant, et qui dit « Être du bon, n'être pas du festin », son épilogue. Donc ça veut dire qu'il a voulu être en résistance, mais qu'il a refusé après la guerre d'être célébré, institutionnalisé en tant que résistant. Et comme je suis un fan de Marie-Monique Robin, je fais un lien avec sa Légion d'honneur qu'elle a reçue, qu'elle a acceptée, mais qu'elle s'est fait remettre à Notre-Dame-des-Landes en 2013. Et donc elle a utilisé finalement une récompense venant... du prince républicain pour soutenir une initiative, une lutte sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, qui est une lutte pour une agriculture paysanne, pour des formes de vie plus autonomes, avec une expérimentation sur le féminisme, sur toute une série de choses qui sont essentielles à notre avenir.
Alors, on ne va pas ouvrir le dossier Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, on vous réinvitera pour ça. Mais par contre, Marie-Monique Robin, voilà une réponse. Mais surtout, tout à l'heure, vous disiez, vous êtes fille d'agriculteur. Je sais que votre père avait cette phrase qui vous a marqué dans votre enfance. On peut changer le monde, mais est-ce que lui-même s'est retrouvé pris dans un système qui l'a contraint?
Bien sûr. Il en est très malheureux aujourd'hui, en fait. C'était un militant de l'Action catholique, mon père, la JAC, je veux changer le monde et tout. Et ils étaient très, très honnêtes, très sincères, je ne vais pas lui reprocher. On lui a vendu des saloperies, poison, mortel dans les champs, on lui faisait croire que ça allait nourrir le monde. On ne peut pas leur reprocher à ça. Ça, les agriculteurs, donc je n'arrête pas de le dire. D'ailleurs, si on veut les convaincre, et on a besoin d'eux, ça ne sera pas en y allant avec les Kalachnikovs. Mais je suis d'accord, quand même, Christophe, vous avez fini avec Notre-Dame-des-Landes, c'est quand même le moment de dire, parce que Ungersheim, c'est l'anti-Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire, moi, si j'ai accepté qu'on me remette, je salue Dominique Méda, d'ailleurs, du courage qu'elle avait eu à l'époque de venir me remettre même la Légion d'honneur à Notre-Dame-des-Landes, c'était très courageux. Mais j'avais choisi ça parce que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, Ungersheim montre qu'on peut vivre autrement et qu'on peut sortir de ce modèle de croissance illimité qui épuise les ressources, qui rend les gens malheureux, malades, etc. Et c'est l'inverse du projet Notre-Dame-des-Landes qui consiste à détruire des terres fertiles. Donc c'est bien de terminer là-dessus parce que voilà, on a besoin de partout d'initiatives comme celle d'Ungersheim, y compris à Notre-Dame-des-Landes.
En tout cas, terminer la première partie, ce n'est pas fini, restez avec nous. Donc je rappelle, Marie-Monique Robin, votre film Qu'est-ce qu'on attend, sorti national le 23 novembre et produit par M2R Film. Et puis votre blog, on peut vous retrouver tout et tout ce qui vous concerne. Donc Mathieu Labonne, le site de Colibri, et puis Christophe Bonneuil, je cite juste le livre écrit avec Jean-Baptiste Fressoz, il y en a d'autres, mais pareil, les références à retrouver sur notre site. C'est donc ce livre, L'événement anthropocène, paru au Seuil, et donc vous restez avec nous effectivement, parce qu'on va parler pétrole et méfaits pour l'environnement.
Contrairement à ce qu'on dit, on a fait des progrès, et ceci notamment dans la qualité des dispersants, c'est-à-dire des produits qui sont employés en mer pour lutter contre la pollution. À l'origine, il s'agissait de produits très toxiques. Eh bien, l'on a mis au point, maintenant les chercheurs ont mis au point des produits qui attaquent le pétrole, qui attaquent le mazout, mais qui sont beaucoup moins toxiques qu'autrefois. Et d'ailleurs, avant de les utiliser, on fait toujours très attention de savoir où on se trouve. Et dans des zones qui sont très sensibles, des zones par exemple de reproduction des poissons ou des crustacés, eh bien on évite d'utiliser des produits qui présenteraient le moindre danger.
Seconde partie, les échos de la Terre. 40 ans après le naufrage du pétrolier est-allemand, le Bohlen, c'était au large de l'île de Sein et c'était le 15 octobre 1976. Qu'en est-il depuis? Des questions de responsabilité et de préjudice écologique. Le principe pollueur-payeur existe-t-il en ce domaine? C'est une question que nous allons poser à notre invité. Bonjour Yann Rabuteau.
Bonjour.
Vous êtes juriste, spécialiste des activités marines et de la protection de l'environnement marin, fondateur du réseau Allégan, qui est un bureau d'études juridique spécialisé dans le droit des activités maritimes et littorales et la protection de l'environnement marin. Il est basé à Brest, hein, c'est ça?
Absolument.
Et donc propose des activités de recherche, des études, formation, veille juridique.
Voilà, c'est ça, dans le domaine des activités maritimes, avec effectivement cette préférence pour les problématiques liées à l'environnement marin.
Alors nous venons d'entendre un extrait d'une archive issue des fonds de l'INA, diffusée le 22 octobre 1976. C'était l'interview de Christian Gérondeau, qui était alors directeur de la protection civile, et donc il parlait effectivement des produits utilisés à l'époque. Rappelez-nous quand même ces événements, donc le 15 octobre 1976, ce naufrage du Bohlen.
Comme vous l'avez rappelé, ce pétrolier qui battait pavillon est-allemand se retrouvait en avarie dans une très mauvaise météo. En effet, précisément, j'en suis pas certain, mais l'idée c'est qu'il y a d'abord une catastrophe humaine puisque l'équipage en évacuant le navire était victime lui-même de naufrage avec ses embarcations de secours. Et il y a eu 25 des 32 membres d'équipage qui ont perdu la vie. Donc c'était déjà un drame humain. Puis, dans les opérations de lutte, il y a aussi eu trois pertes humaines dans la gestion de l'événement lui-même. Et la pollution, avec environ 7000 tonnes de fioul lourd qui ont été déversées en mer et sur le littoral.
Alors, il se trouve que finalement, cette marée noire, elle choqua, bien évidemment, à l'époque, mais ce n'est pas elle qui a été le déclencheur d'un changement en matière juridique.
Alors, effectivement, le Bohlen, c'est 1976. Mm. C'est une période, on va dire, effectivement, charnière, puisque c'est après une autre catastrophe de sinistre mémoire, le Torrey Canyon, en 1967, et avant une autre très célèbre, qui est la Moco Cadiz, en 78. Toujours dans la même zone. On est toujours en mer d'Iroise, ou un peu plus au nord, un peu plus au sud. Donc, il y a eu des mouvements initiés dès 1968-1969 pour mieux réparer les conséquences des marées noires, et puis il y a surtout eu ce qui s'est passé après la Moco Cadiz, en termes de préparation patients à la lutte et de responsabilité. Au moment du Bolen, on est dans une période charnière où les outils se mettent en place au niveau juridique essentiellement. Il y a des obligations d'assurance pour réparer les dommages, mais on n'est pas dans un système qu'on connaît aujourd'hui.
Donc 40 ans après, qu'est-ce qu'il existe précisément? Il y a une convention internationale du droit de la mer?
Oui, il y a cette fameuse convention dite de Montego Bay, qui est la convention sur le droit de la mer, une sorte de règle du jeu entre les États sur les espaces marins, leurs droits, leurs obligations, ce qu'on peut y faire et comment on doit faire, etc. Avec, en matière environnementale, en matière de protection de l'environnement marin, des obligations qui sont faites aux États d'agir pour mettre en place des outils de protection, des obligations de s'entendre pour gérer ces espaces-là, et donc d'adhérer aux autres outils internationaux, notamment en matière de prévention des accidents, de sécurité maritime, d'intervention en cas de risque de marée noire, et de réparation des conséquences dommageables.
Donc il y a des principes établis. En un mot, il y a trois types peut-être d'actions aujourd'hui, prévention, intervention ou réparation, c'est ça?
Oui, ça permet, si vous voulez, de bien naviguer, sans jeu de mots, dans toute cette réglementation internationale, européenne, nationale, puisqu'il y a effectivement des volets qui sont visés en particulier par les textes, la prévention, c'est-à-dire comment on fait pour éviter que les accidents de mer surviennent, qu'ils soient d'origine humaine ou qu'ils soient accidentels, comment on fait pour intervenir, parce que c'est très important, notamment en haute mer, d'intervenir le plus tôt possible pour éviter le sinistre, et puis surtout comment on répare les dommages. Donc il y a effectivement des conventions internationales qui visent l'ensemble de ces trois éléments, prévention, intervention, réparation.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que juriste et spécialiste de ces questions? Est-ce que le droit international aujourd'hui assure vraiment, j'ai envie de dire, une quiétude, une tranquillité peut-être pour ceux qui habitent sur des zones côtières et même ne serait-ce que par rapport à l'environnement, où finalement ce sont des textes, mais dans les faits, c'est plus compliqué?
Alors, c'est une quiétude, non, je crois qu'on n'en est pas encore là, puisque de toute façon, et c'est une phrase qui est lourde, mais effectivement, on entend souvent le risque zéro n'existe pas, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte, puisqu'on peut toujours faire mieux, y compris en matière de transport maritime. Alors, on peut pas être rassuré, c'est vrai, encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les outils existent, les outils juridiques ont quand même nettement évolué sur cette échelle de temps qui nous sert de référence aujourd'hui, ces 40 dernières années. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. On peut parler des conventions internationales qui visent la conception des navires, les règles vraiment techniques de conception des navires pour éviter des cas de rupture de coque qu'on a vu assez récemment encore dans l'histoire des marées noires, parce que c'est vraiment une des causes premières. La formation de l'équipage, les équipements de prévention des collisions en matière de circulation maritime, etc. Donc il y a déjà, pour le volet prévention, il y a déjà beaucoup de choses, mais on peut encore avancer. Quand on pense à l'exemple du Bolen, là, qui nous sert de point de départ, un des problèmes vraiment opérationnels, puisque c'est la météo qui a causé quand même ce sinistre essentiellement, les conditions de mer, mais le problème en termes d'environnement, c'était la pollution elle-même, la récupération de la cargaison, de ce fuel, ces hydrocarbures polluants. À l'époque, voilà, il y avait des techniques. On bouche la brèche avec du béton, du ciment, et puis on le laisse là. Et puis, heureusement, les autorités publiques, à l'écoute des populations littorales, ont dit non, on va le pomper. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Il n'y a pas de réglementation. Il n'y en avait pas, et il n'y en a toujours pas aujourd'hui là-dessus pour dire il faut, par exemple, prééquiper les navires, les pétroliers et aussi les autres, parce qu'ils transportent comme carburant des quantités très importantes, parfois de fuel, de propulsion, de carburant, si vous voulez. Ben, il faut les prééquiper de solutions rapides, par exemple, pour récupérer ces fuels en cas de crise. Donc il faut, pour atteindre une certaine quiétude, il faut quand même travailler beaucoup sur l'équipement aussi des navires, même si les choses ont évolué, bien sûr.
Et oui, alors est-ce que concrètement, Yann Rabuteau, il y a des pétroliers poubelles, si je peux me permettre ce terme, qui sillonnent les mers aujourd'hui?
Alors, fort heureusement, il y en a moins. Alors les mauvaises langues, vous direz, il y en a moins parce que c'est eux qui ont des problèmes, c'est eux qui font naufrage et qui polluent. Alors, voilà, mais c'est surtout parce que la réglementation internationale, s'améliorant, les États prenant conscience pour différentes raisons, que ce soit pour des raisons politiques, pour soit répondre à la société civile ou même en termes de relations internationales, la plupart des États qui étaient dits complaisants ou sous normes signent, ratifient ces conventions. Donc les armateurs qui mettent sur leur navire le pavillon de tel ou tel État sont quand même de moins en moins nombreux à ne pas respecter les règles, c'est-à-dire que la situation s'améliore. Donc les choses font que maintenant, on va quand même se forcer, pour une raison ou une autre, à choisir des navires de meilleure qualité et éviter d'être négligent dans le choix des navires. Donc ça, c'est aussi un comportement qui est en évolution, mais il faut rester vigilant.
Donc aujourd'hui, on peut dire quand même que le principe pollueur-payeur existe et que les condamnations sont effectives ?
Alors ce principe pollueur-payeur, pour le juriste en maritimiste, si vous voulez, il est un petit peu difficile à cerner en mer. Pourquoi ? Parce que on le regarde avec notre regard parfois hein, de terrestre, de terrien, et on se dit principe pollueur-payeur, c'est faire payer celui qui fait courir un risque, etc. Il faut qu'il assume des conséquences. C'est normal. C'est un principe de responsabilité. Mais du fait des conventions internationales, des règles d'assurance, etc. Il y a des systèmes comme la convention CLC sur la responsabilité civile, la convention FIPOL, le fameux FIPOL qui indemnise les marées noires, fait qu'en définitive, on va déjà garantir une somme d'argent par l'assurance pour payer les dommages, mais c'est pas nécessairement le pollueur qu'on entend au sens classique. C'est le propriétaire du navire qui va toujours payer parce qu'il est assuré pour ça. C'est ce que dit le droit de la mer, en fait. Donc c'est pas nécessairement le pollueur. Hein, donc c'est pas forcément un système incitatif à ce niveau-là, parce que le responsable objectif de la... Pardon, celui qui aurait commis une faute dans l'entretien du navire n'est pas nécessairement le propriétaire. Donc c'est un système qui est intéressant parce qu'il y a une somme d'argent qui est là pour payer les dommages depuis que ces conventions sont en vigueur, donc ça c'est très bien. Mais c'est pas une transposition du principe pollueur-payeur comme on l'entend classiquement pour les risques industriels à terre, etc. Alors l'autre volet de cette question sans doute c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait effectivement des conséquences écologiques qui sont très importantes en cas de pollution majeure par hydrocarbures, suivant le type de polluant évidemment, et suivant les circonstances. Alors, le système international que j'évoquais, lui, il est là surtout pour indemniser les opérations de nettoyage sur la côte, qui sont très coûteuses, qui sont longues, qui sont dangereuses. Il va indemniser les préjudices économiques, il va indemniser les pertes de revenus du secteur du tourisme, etc., des marins-pêcheurs, mais ces conventions, en fait, excluent si vous voulez, à contrario, l'indemnisation du préjudice écologique lui-même, puisqu'on va se limiter au coût raisonnable des remises en état, des opérations de remise en état. C'est-à-dire que on va vous rembourser pour le nettoyage d'un cormoran, hein, pour prendre une image célèbre, mais on vous paiera pas la perte de cet animal s'il meurt du fait de la pollution. Vous voyez ? Donc voilà, on en reste à une approche très matérielle.
Il y a encore beaucoup à faire, en tout cas, hein, sur ce terrain de l'environnement marin.
Voilà. Absolument, et qu'il faut souvent se tourner vers le tribunal pour obtenir des compensations sur un autre terrain.
Donc il faut encore travailler sur ce terrain de juridique en tout cas. Hein. Yann Rabuteau, merci à vous pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes juriste spécialiste des activités marines et de la protection de l'environnement marin et fondateur du réseau Allégan depuis 2003. Et je vous rappelle que les informations et les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, retrouver les plus et les moins de la semaine grâce à Anaï Morales et puis nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet. Et la semaine prochaine, nous nous intéresserons aux produits de notre environnement domestique et à leurs effets sur notre santé. Luxe, beauté et propreté, les dangers insoupçonnés, ce sera notre thème et nous serons notamment en compagnie du chimiste et toxicologue André Sicolella. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, Inès De Bruyne, Catherine Donné, Anaïs Morales. Je n'oublie pas Caroline Chausset de la documentation sonore de Radio France et Anne Gouzon de la documentation de Radio France, dont vous pouvez retrouver, comme toujours, la revue de Web Environnement sur le site de l'émission. À la réalisation, aujourd'hui Vincent Abouchard et bien sûr avec Alexandra Malka, à la technique Cédric Châtelu. Et dans un instant, restez à l'écoute à 17h, suite de vos programmes sur France Culture avec Rue des Écoles.